Chérie, l'invité du vendredi.
Et on est ce vendredi quasiment à mi-chemin entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle 2022. Merci d'être avec nous, Emmanuel Saint-Bonnet, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bonjour, vous êtes expert électoral installé dans le département de l'Ardèche. D'abord, Emmanuel Saint-Bonnet, peut-être une analyse un petit peu locale sur les résultats, les scores élevés par exemple de Jean-Luc Mélenchon dans certaines villes drômoises, certaines villes comme Valence par exemple qui sont acquises pourtant aux mains de la droite au niveau municipal. Donc c'est là qu'on se rend compte finalement que les gens ne votent pas pareil quand ils votent au niveau local qu'au niveau national en fait.
Ah ben bien entendu, ça n'a rien de nouveau. Il y a plusieurs choses. Déjà au niveau strictement national, hier je crois que chez l'un de vos confrères, il y avait Fabien Roussel qui analysait justement le résultat des élections en disant qu'il y a eu un fort dégagisme. C'est-à-dire que finalement le duel Le Pen-Macron, les deux réunissent à peu près 50% des exprimés. Ça veut dire qu'il est rejeté par une très grande partie des Français. Quand je dis qu'il est rejeté, il est rejeté aussi par les personnes qui ont voté blanc, qui se sont abstenues et autres. Donc ça fait sans doute plus de la moitié des Français qui rejettent ce duel. Et donc une partie des Français, des électeurs, se sont servis, surtout dans les derniers jours, quand on a vu comment la tournure que prenait la campagne, se sont servis du bulletin de vote Mélenchon pour essayer de dégager ce duel. Quelque part, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en 2007. Il y avait un tel battage autour de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal que beaucoup de gens se sont servis du bulletin François Bayrou pour pouvoir essayer de dégager un peu ça. Ça n'a pas réussi parce que finalement ce dégagisme, quelque part, il est tellement multiforme, protéiforme, il va prendre différentes formes que le fait de voter pour un troisième larron qui irait un petit peu gâcher le face-à-face prévu, c'est pas suffisant, il n'y a pas suffisamment de force pour ça. C'était très juste, mais il n'y en a pas eu suffisamment. Donc ça c'est une chose. Donc effectivement des villes acquises à la droite, vous me parlez de Valence, je pense également à Aubenas en Ardèche. Déjà en 2017, Jean-Luc Mélenchon était en tête, là il est encore plus en tête à Aubenas. C'est des villes acquises à la droite, effectivement, mais dans lesquelles peut s'exprimer ce dégagisme. Deuxièmement, il y a une autre remarque qu'on peut faire, ça c'est davantage au niveau de la géographie électorale, c'est que, comme le dit Jérôme Fourquet, le sondeur qui a écrit un livre sur l'archipel français, aujourd'hui le pays est, de ce point de vue-là, du point de vue du résultat de ce premier tour, complètement archipélisé. Complètement.
C'est ça qui fait qu'on a effectivement, une débâcle énorme des partis traditionnels, des partis qui étaient aux manettes du pouvoir il y a encore quelques années, le PS et les Républicains.
Bah oui, le PS, il a sombré déjà en 2017, parce que finalement, les résultats de Benoît Hamon, finalement, grosso modo, même si c'est pas les mêmes personnes qui ont voté, même s'il n'y a pas le même nombre d'exprimés, etc., grosso modo, ce qu'il a fait, c'était EELV plus PS. Les résultats qu'on a là maintenant, c'est-à-dire les 4-5% de ELV et les 1 ou 2% du PS. Fait autour de 6%, et là, c'est à peu près, si on additionne les deux, même si c'est pas comme ça, c'est pas que de l'arithmétique, la politique, c'est ça. Donc ça, c'est une confirmation de ce qui s'est passé en 2017 pour le PS. C'est pas nouveau. En revanche, effectivement, pour les Républicains, c'est la débâcle qui est encore pire que celle des Européennes en 2019.
Ouais, sachant que les Républicains, l'UMP, c'est un petit peu la continuité du RPR, donc ce sont quand même des partis historiques.
Bien sûr, ce sont des partis. De toute façon, ce sont des partis, que ce soit le PS ou les Républicains, ce sont des partis qui se sont fondés et refondés pour le gaullisme. Le gaullisme, ce sont les héritiers du gaullisme, même si Madame Pécresse se disait chiracienne, c'est même les héritiers du chiracisme. Mais bon, la matrice, c'est le gaullisme. Donc c'est le RPF, c'est 1947, quoi, par là. Et le PS, c'est effectivement la matrice, c'est la SFIO, le congrès de Tours de 1920 et la refondation du PS épinée en 1971. Donc ça, tout ça, c'est des matrices qui sont assez anciennes. Vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive, parce que lorsqu'il y a eu la 5ème République qui est arrivée, ça a balayé un certain nombre d'anciens partis. Alors on se souvient des radicaux, quasiment plus, qui se souvient du PSU aujourd'hui, qui se souvient du CNI, du CNIP, du MRP, ces partis-là qui dominaient la vie politique sous la 4ème République ont été balayés. Alors ils ont été balayés pas si vite que ça, ça a mis 10-15 ans pour qu'ils soient balayés de la carte électorale locale. Par contre, au niveau national, effectivement, on s'est retrouvé face à un face-à-face droite-gaulliste.
Pour le second tour, c'est finalement le même duel qu'en 2017, avec d'un côté Emmanuel Macron, oui. De l'autre Marine Le Pen. Est-ce que ce sera la même chose qu'en 2017? Est-ce que les enjeux sont les mêmes, sachant que Marine Le Pen a peut-être réalisé aussi un plus gros score avec les réserves de voix d'Éric Zemmour aussi?
Alors les réserves de voix, mais il n'y a pas que les réserves de voix. En fait, ce qui va se passer au deuxième tour, c'est qu'on va avoir un corps électoral qui sera très, très, très différent de celui du premier. Effectivement, il y a des gens qui soit ne se déplaceront pas, soit voteront blanc. Il faudra bien regarder les bulletins blancs au soir du deuxième tour, ça risque d'être assez impressionnant, à mon avis. Et puis, il y a des gens qui ne se sont pas déplacés. Vous savez, il y a des gens qui attendent le deuxième tour. Hein. Ils se déplaceront et ils choisiront à ce moment-là. Donc, le corps électoral ne sera pas le même. Donc, effectivement, on peut additionner Éric Zemmour hein, et Marine Le Pen. On n'arrive pas à 50%, bien entendu. Donc, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer le fait que ce n'est pas le même contexte. On avait, en 2017, une Marine Le Pen qui se présentait pour la deuxième fois, mais qui était quand même encore relativement nouvelle. Et on avait Emmanuel Macron qui surgissait de presque nulle part. Là, on a un président sortant avec un bilan, comme a dit Mitterrand à Giscard lors du débat de 1981, avec un passif, sans doute aussi. Donc, je pense que Marine Le Pen devrait appuyer là-dessus aussi. Donc, ça ne sera pas si facile que ça.
Pas si facile, ça veut dire que concrètement, qu'aujourd'hui, le Rassemblement National n'a jamais été aussi près de gouverner ?
Ah, bien entendu, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va gouverner. Mais effectivement, il est très très près. On peut dire qu'on est presque à la dernière marche avant la porte de l'Élysée.
Alors, le débat présidentiel, effectivement, c'est ce mercredi avec un Emmanuel Macron qui aura gouverné pendant 5 ans. Donc, il y a l'exercice un petit peu du pouvoir. Et puis, Marine Le Pen, qui, on imagine, aura peut-être un peu appris de ses erreurs du premier débat en 2017 avec Emmanuel Macron.
Ah, très certainement, parce qu'elle a été véritablement piégée. Et le moment où elle était piégée, c'est quand Emmanuel Macron, quelques jours avant le débat, a dit « De toute façon, si Madame Le Pen est incorrecte, si elle est irrespectueuse, je quitterai le plateau. » Ce qu'il n'a pas fait, bien entendu, et il l'a poussée à la faute. Elle a été effectivement assez hargneuse, assez odieuse, et lui, bien entendu, n'avait absolument pas l'intention de quitter le plateau. Donc je pense qu'elle a quand même tiré les leçons de cette affaire et que les choses vont se passer très différemment. Donc on verra bien comment les choses vont se passer. Après, ça peut, franchement, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc après, est-ce que ce débat va être décisif ? Il va peut-être déplacer un certain nombre de dizaines de milliers de voix. Mais je pense que beaucoup de gens se sont déjà fait leur idée et se feront leur idée après ce débat.
Ça veut dire concrètement que le débat peut changer la donne, peut inverser la tendance d'une manière ou d'une autre ?
Ben écoutez, oui, il peut tout à fait. Par exemple, en 1974, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vu le faible écart entre Giscard et Mitterrand, ça a peut-être joué, oui, tout à fait. Quand les écarts sont très faibles, parce que je pense que le nombre de voix déplacées n'est pas si énorme que ça. Surtout, ne n'oublions pas maintenant que, autant en 1974, c'était nouveau ces débats télévisés. Il n'y en avait pas vraiment eu avant, c'était le premier. Hein. Autant aujourd'hui, on sait très bien que la télévision a perdu du terrain, énormément de terrain, au niveau de l'information. Donc ça va déplacer des voix, mais ça n'en déplacera pas tant que ça.
Et ben on va
effectivement,
suivre,
si le score est très serré, oui, on pourra se dire après coup, ah oui, c'est parce qu'un tel a dit ça, Macron a dit ça, ou Le Pen a dit ça. C'est possible.
On va suivre ça en tout cas avec un grand intérêt, sachant que le second tour, bien, c'est dans 9 jours, hein, on est vraiment à l'entre-deux là, donc rendez-vous le 24 avril pour le second tour. Merci beaucoup pour votre analyse, Emmanuel Saint-Bonnet. Je rappelle que vous êtes expert électoral installé dans le département de l'Ardèche. Merci d'avoir été avec nous.
Merci infiniment, Guillaume Sauquel. Bonne journée.